Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue aux émissions de Conflit. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve donc pour une nouvelle émission de notre série estivale consacrée à la philosophie politique et à l'histoire des idées politiques. Vous pouvez retrouver les autres émissions sur le site internet de Conflit, site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro actuellement en kiosque, dont le dossier est consacré au golfe de Guinée et au rapport entre le djihadisme et les trafiquants de drogue. Et puis, vous pouvez également retrouver le hors-série consacré à la géopolitique de la santé. Alors, en termes de philosophie politique, nous allons aborder un sujet un peu particulier que sont les rapports entre l'esthétique et la liberté. Nous avons abordé au cours de cette année plusieurs sujets culturels et nous est apparu intéressant d'étudier ce rapport entre les deux. On pense évidemment à l'esthétique de l'architecture, à l'esthétique de la peinture, à l'esthétique de la musique, et nous allons voir que les rapports entre esthétique et liberté sont éminemment importants. Pour évoquer cela, je reçois Philippe Nemo. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, vous avez été professeur à l'USCP et à HEC, et vous êtes actuellement professeur à l'École professorale de Paris, qui offre des formations pour les étudiants qui veulent devenir professeurs et notamment pour préparer les différents concours. Si certains de nos auditeurs sont intéressés par ces métiers, je les invite à aller voir le site internet de l'École professorale de Paris pour voir tout ce qui leur est proposé. Et vous avez publié également en 2014 aux Presses universitaires de France un ouvrage qui s'intitule « Esthétique de la liberté ». Le titre est, je dois dire, un peu curieux de prime abord parce que vous analysez la liberté sous le regard de la beauté, sous le regard de l'esthétique, et vous montrez, en tout cas c'est la thèse de votre ouvrage, que les sociétés libres sont créatrices de beau, alors que les sociétés où il n'y a pas de liberté sont créatrices de laideur. Alors c'est résumé en quelques grands mots votre thèse, mais c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. En quoi est-ce que la présence de la liberté, en quoi est-ce que le respect des libertés humaines permet-elle le développement de l'esthétique et donc de la beauté?
C'est toute la question, donc j'ai mis 200 pages pour répondre. Donc, il faut. J'étais parti d'abord d'une fable de La Fontaine, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, le loup et le chien.
Le chien et le loup, oui. Où vous avez un loup qui crève de faim, bon, qui est libre hein, dans les bois, et bon. Et alors, enfin, il crève pas de faim, il arrive à se nourrir, enfin, il a une vie difficile, hein. Et puis il rencontre un chien bien replé, en pleine forme physiquement. Et il lui dit, mais d'où vient que vous ayez l'air aussi bien nourri, hein? Et le chien lui dit, bah, c'est parce que j'habite chez des gens, hein, et si vous voulez, je vous emmène et vous verrez, vous aussi, vous serez très bien nourri. Et le loup répond, mais très bien, très bien. Alors il se lèche déjà les babines. Hein. Que faudra-t-il que je fasse? Alors le chien répond, ben voilà, c'est pas compliqué. Vous aboyez quand il y a des étrangers qui approchent de la maison, et puis vous allez faire vous allez voir les maîtres, ils vous font des caresses, et puis ils vous donnent tous les restes de leur plantureux repas. Bon. Ah, formidable, formidable. Alors, le loup est absolument ravi. Et puis chemin faisant, il voit une trace bizarre sur le cou du chien. Et il demande, mais qu'est-ce que c'est que cette cicatrice que vous avez à votre cou? Et le chien répond, bah, c'est parce que c'est sans doute à cause du collier que je dois porter toute la journée. Alors le loup dit, bah, comment, collier? Mais vous êtes pas libre d'aller où vous voulez. Et le chien dit, bah, non, en effet, mais qu'importe. Et alors, le loup répond, il importe si bien que de tout mon repas, je ne veux en aucune sorte. Et là-dessus, le loup s'en va et il préfère vivre libre dans la forêt que d'être esclave d'un maître humain. Hein. Et la fable de La Fontaine, que jadis on apprenait par cœur, on devait apprendre par cœur aux enfants, pour La Fontaine, il n'y a aucun doute. Enfin, la morale de l'histoire ne fait aucun doute. Hein. C'est que la liberté est sans prix, en quelque sorte. Hein. Et la vie du loup est plus belle que. Enfin, non seulement elle est plus recommandable, mais elle est plus belle que celle du chien qui est enlaidi par sa servitude, alors même que son poil est brillant et que sa santé est impeccable. Hein. Voilà, il a un bel embonpoint, mais il n'est pas beau parce qu'il est moralement laid, si vous voulez. Hein. Et alors là-dessus, on peut enchaîner. Enfin, là-dessus, il y a toute une analyse philosophique à faire. Hein. Vous avez cette notion qui est développée par les Grecs et par les Romains, et spécialement par la tradition stoïcienne telle qu'elle est développée en particulier par Cicéron dans ce chef-d'œuvre qui s'appelle Les Devoirs, hein, Deophikis. Vous avez et Cicéron avait vécu en Grèce pendant 3 ans. Hein, il parlait grec couramment. D'ailleurs, il avait des précepteurs grecs. Hein, et il connaissait très bien toute la philosophie grecque, platonisme, aristotélisme. Et il connaissait cette notion qu'on trouve chez Homère, hein, du kalos kegatos, ce qui est bel et bon. Hein. Et ce qui est bel et bon, c'est donc qu'il y a une espèce, qu'il y a un lien. Mystérieux en tout cas, mais un lien, mais indéniable, entre le bien et le beau, en quelque sorte. Et pour les gens du temps d'Homère, eh bien, ce lien, c'était que est bon le guerrier courageux qui n'hésite pas à mourir en combat si c'est nécessaire pour sauver sa patrie ou pour acquérir de la gloire. Hein. Et en général, c'est un gaillard bien bâti qui est en effet beau. Au sens physique du terme. Et c'est pas étonnant que ce monsieur qui est beau, que ce garçon qui est beau physiquement, soit aussi bon moralement, hein, puisque ce qu'on lui demande moralement, c'est précisément d'exercer sa force physique qui est une force guerrière. Et inversement, il y a le fameux exemple de Tersite, le ridicule Tersite, ce héros homérique, qui, enfin, c'est pas un héros, je veux dire, c'est un anti-héros homérique, qui est un personnage. Qui raconte des histoires au peuple, qui essaye d'exciter le peuple contre les dirigeants de l'armée achéenne, et qui est plein de fiel et qui raconte les rumeurs. Enfin, il essaye de faire rire, mais aux dépens des chefs. Hein. Et alors, cet horrible personnage, moralement horrible, hein, est décrit par Homère comme étant moche. Physiquement, justement. Il est chauve, il a juste un poil sur la tête, il est bossu, il est petit, il est gros, enfin, il a toutes les disgrâces physiques. Et pour Homère, c'est pas du tout étonnant, hein, qu'un type aussi moche physiquement soit également moche moralement. Hein. Donc il y a un lien du physique et du moral. Et toute l'histoire de la civilisation grecque, ça a été admirablement analysé, résumé par ce livre, ce grand livre d'histoire qui s'appelle l'Histoire de l'éducation dans l'Antiquité de Henri-Irénée Maroux. Toute l'histoire de l'éducation grecque, c'est la séparation progressive entre le moral et l'esthétique, justement. Hein. Par exemple, Socrate, à l'époque des sophistes, il est magnifique moralement, bien entendu, hein. Sauf qu'il a une verrue sur le nez. Alors cette verrue sur le nez gâche sa beauté, en quelque sorte. Hein. Alors Platon, qui rapporte le fait, en est un petit peu gêné, et dans Le Banquet, si je ne me trompe, il met en scène Socrate avec Alcibiade, le bel Alcibiade, hein, avec qui Socrate a été à la guerre. Hein. Et Alcibiade témoigne que Socrate... Bien sûr, il a sa verrue sur le nez, mais c'était quand même un homme robuste, bien fait, et qui s'est très bien battu. Hein. Donc, on est sauvé, puisque Socrate, malgré sa verrue, a quand même une certaine beauté physique. Mais il devient déjà, à l'époque des sophistes, il devient clair qu'il y a une différence à faire entre les qualités morales et puis la beauté physique extérieure. Et puis, ce mot de kalos et gathos qui finit par être, il y a une crase, hein, on en fait un seul mot, kalokagathos, hein, devient synonyme de, justement, de beauté indistinctement morale et physique. Et quand les Romains doivent traduire ce mot, ils sont bien embarrassés, parce que justement, il y a deux mots. Hein, comment est-ce que deux mots grecs peuvent se traduire en un seul? Et le mot par lequel Cicéron, qui je le répète, était bilingue, hein, traduit kalos kegatos, ou la kalokagathia, hein, c'est le mot honestas, l'honnête homme. Hein. L'honnête homme, c'est précisément celui qui a toutes les qualités morales. Et Cicéron, qui lui-même est tributaire de la tradition stoïcienne, résume dans le De Officiis, ce livre dont je citais le titre tout à l'heure, ce livre est une sorte de résumé et de commentaire savant d'un fameux livre d'un des stoïciens de l'époque dite moyenne, hein, Panétius, qui est un livre justement de morale, où il est dit que il y a une beauté morale bien distincte de la beauté physique, et parce que l'homme n'est pas seulement un animal. Hein. L'animal peut se contenter d'être beau physiquement, hein, d'être fort physiquement et beau physiquement, alors que l'homme possède la raison. Hein, et il possède le fameux logos qu'il apparente à Dieu, hein, puisque Dieu lui-même est logos. Hein. Dieu est un feu organisateur, le dieu des stoïciens. Hein. Et il y a dans chaque âme humaine une étincelle de ce feu divin. Hein. Alors, l'homme ne peut parvenir à sa perfection que par un heureux mélange entre la perfection de son corps et celle de son âme. Mais l'acmé, pour parler toujours grec, hein, la perfection du corps humain est atteinte lorsque l'homme a 20 ans et la fille a 20 ans. C'est-à-dire, comme par hasard, c'est l'âge que la nature a choisi pour qu'ils se reproduisent, donc il faut bien qu'ils s'attirent l'un à l'autre, et la nature a voulu que leur corps soit beau. Hein. Et ce qui caractérise la beauté, qui ne se définit pas, hein, il est bien connu que la rose est sans pourquoi, pour parler comme le mystique allemand Angelus Silesius, hein, la rose est sans pourquoi, hein, la beauté ne s'explique pas, hein, elle se voit. Eh bien, le corps humain, quand il est parfait physiquement, il a un éclat. Hein. Et d'ailleurs, pas seulement le corps humain, mais la fleur. Hein. Quand la fleur éclot, elle a un éclat, elle a d'ailleurs aussi une odeur. Hein. Et à ce moment-là, on voit bien qu'elle est parvenue à sa perfection, en quelque sorte. Donc le corps humain, lui aussi, parvient à sa perfection, mettons vers l'âge de 20 ans, enfin vers l'âge nubile, en tout cas. Hein. Et à ce moment-là, il jette un éclat, hein, qui est l'éclat de sa beauté physique. Mais les stoïciens insistent sur le fait qu'ensuite vient le perfectionnement moral. Et à ce moment-là arrive, mais bien plus tard, l'acmé réel, synthétique de l'homme, quand il a atteint une certaine perfection morale. Et là encore, ça ne se définit pas par A plus B. Là encore, ça se révèle par un éclat. Car l'homme qui est parvenu à sa perfection morale, c'est-à-dire qu'il a développé en lui toutes les vertus naturelles, les fameuses vertus cardinales, hein, prudence, justice, force et tempérance, hein, parce que le corps a quatre bras, a quatre membres, deux pieds, deux jambes, mais l'âme a aussi quatre membres qui sont les vertus cardinales. Donc quand l'homme a développé toutes ces vertus, eh bien, il atteint une beauté morale. Une beauté morale qui, elle aussi, jette un éclat. Et c'est une beauté. Et c'est cette beauté que Cicéron a traduit par honestas, hein, l'honnête homme. Et cette beauté va se perpétuer et elle va continuer à rayonner aussi longtemps que l'homme ne fait pas des actions honteuses qui brisent en lui l'image de l'homme. Hein. Et c'est le fameux exemple du consul Régulus que je vous raconte, parce qu'elle vaut la peine d'être racontée. Elle était très célèbre dans l'Antiquité. C'est un consul romain qui dirige une armée contre les Carthaginois. Et puis les Carthaginois gagnent une bataille, font prisonnier l'armée romaine, font prisonnier Régulus, et lui propose d'aller à Rome, proposer un deal, si j'ose parler franglais au lieu de parler latin, au Sénat, en disant, voilà, on vous libère votre armée si et seulement si vous libérez tous les prisonniers carthaginois que vous avez faits. Bon. Et les Carthaginois disent à Régulus, voilà, tu vas aller porter cette ambassade donc, à Rome, mais attention, hein, si les Romains n'acceptent pas, tu reviens, hein, puisque tu es notre prisonnier. Bon. Alors Régulus va au Sénat, lui-même demande aux sénateurs de ne pas voter pour accepter la proposition des Carthaginois. Il les exhorte à ne pas vouloir que l'armée romaine soit libérée, parce qu'elle a perdu la bataille, donc elle n'est pas digne d'être libérée, de toute façon. Et il obtient ce vote négatif et se pose à lui la question de savoir s'il va rentrer ou pas dans le camp carthaginois, parce qu'il sait très bien que s'il rentre dans le camp carthaginois, il sera mis à mort. Bon. Et néanmoins, il y revient, il est mis à mort, dans des conditions atroces, il est mis dans un tonneau percé de clous, que l'on fait dévaler une pente. Voilà, donc non seulement il meurt, mais il a eu le temps de se voir mourir. Et Cicéron soutient, comme les philosophes de son temps, les philosophes stoïciens de son temps, que ce Régulus était heureux. Il était souffrant, mais heureux, parce qu'il avait maintenu sa beauté morale, hein, en n'étant pas parjure, alors que s'il n'était pas rentré dans le camp des Carthaginois, il aurait peut-être eu de longues années de vie après, mais enlaidi par le fait qu'il était parjure, que tout le monde le saurait, d'ailleurs même si personne ne le sait, comme chacun sait, l'œil est dans la tombe et regarde qu'un, si vous voulez. Hein. Donc vous avez une espèce de beauté morale qui fait partie de la destination même de l'homme. L'homme, la vie humaine ne vaut la peine d'être vécue que si elle progresse vers cet éclat, vers cet état où la perfection est telle que elle se voit. Hein. Alors là-dessus, évidemment, entre le stoïcisme et le christianisme, encore y avoir une mutation, parce que pour les stoïciens comme tous les Grecs, l'honneur suprême, c'est d'être honoré par la cité. Hein. Donc l'honneur est quelque chose d'extérieur. Alors que pour les chrétiens, évidemment, Dieu voit tout et Dieu voit dans le fond des cœurs et Dieu juge les gens non pas sur l'extérieur, mais sur ce qu'ils pensent, sur ce que leur cœur même sent intérieurement. Hein. Et par conséquent, l'humilité chrétienne va consister à s'honorer aux yeux de Dieu en étant toujours charitable. Même si cela vous conduit à être déshonoré par les hommes, à être mis sur la croix comme Jésus-Christ, ou en tout cas être rejeté comme un être sans courage ou sans justement sans éclat. Hein. Alors voilà, c'est une sorte de problématique qu'on peut poursuivre. C'est ce que je fais dans le livre en analysant, oui, beauté et liberté dans la Bible, enfin beauté et liberté chez Platon, hein, évidemment chez Platon, dans le Phèdre, hein, vous voyez bien que c'est la beauté qui donne l'idée même de la transcendance, hein, de l'intelligible. Hein. Et je discute toutes ces traditions philosophiques et je m'interroge sur la question de savoir s'il y a finalement, ben, quels sont les rapports entre le vrai, le beau et le bien. Vous savez que le vrai, le beau et le bien, c'est le titre d'un fameux livre de Victor Cousin, hein, dont on nous faisait rire aux éclats quand nous étions étudiants de philosophie à l'horrible époque de mai 68 et dans la suite, hein, rien ne paraissait plus ridicule que ce titre, le vrai, le beau, le bien, hein, avec des majuscules. Parce que pour tous ces professeurs marxistes, aucune majuscule n'a lieu d'être, hein, le monde n'est que matière et toute référence à une quelconque transcendance est une pure illusion, hein, et en plus une illusion coupable, parce que c'est l'illusion dont use la bourgeoisie pour opprimer le prolétariat. Hein. Alors on nous faisait nous moquer de Victor Cousin, mais Victor Cousin a néanmoins écrit ce livre et il s'interroge sur la relation entre ces valeurs. Hein. Ce sont toutes les trois des valeurs inconditionnelles, si vous voulez, hein, on est prêt à tout pour atteindre la vérité, on est prêt à tout pour atteindre la beauté, on est prêt à tout pour atteindre le bien. Mais est-ce que il n'y a pas conflit entre le vrai, le beau et le bien, hein? Et je cite une phrase très célèbre de Dostoïevski, très étonnante aussi, et qu'il a répété plusieurs fois, d'abord dans une correspondance avec une princesse russe, et puis il l'a redit ensuite dans les possédés. C'est que vous avez un héros qui dit: si je devais choisir entre la vérité et le Christ, je choisirais le Christ. Donc le bien vaut plus que le vrai, en quelque sorte. Donc vous pouvez me démontrer par A plus B que le Christ a eu tort de dire qu'il faut s'aimer les uns les autres, eh bien moi, je suis le Christ, je suis au sens de suivre, je vais suivre le Christ, parce que mon cœur me dit que c'est lui qui a raison, hein, même s'il n'a pas la vérité. Voilà, mais vous avez plein de conflits. Par exemple, est-ce que les nazis... qui étaient des hommes assez peu sympathiques, hein, et réputés ne pas être très amis du bien, pouvaient être très esthètes et voler toutes les collections de peinture de l'Europe, ou faire jouer de la musique classique à des musiciens juifs dans les camps qui seraient gazés le lendemain, hein, ce qui n'est pas très bien, hein, et donc ils préféraient le beau au bien, de toute façon. Hein. Et puis vous pouvez avoir plein de savants qui veulent absolument trouver le vrai, même si on doit faire des choses mauvaises, par exemple, par ailleurs, enfin, même si le vrai que l'on fait, que l'on cherche, même si la recherche du vrai doit impliquer de faire du mal à autrui. Alors, par exemple, les expérimentations humaines, hein, ou encore, les, je sais pas moi, les expériences de manipulation génétique, si vous voulez. C'est très intéressant. Si on pouvait faire toutes les manipulations génétiques qu'on veut faire, on avancerait peut-être plus vite dans la science biologique, hein. Sauf que si on se met à fabriquer des chimères, comme il y a une série Netflix qui l'illustre en ce moment, où vous avez des enfants qui naissent avec un groin de porc, et puis hein, vous avez un enfant vraiment très mignon qui naît avec des cornes de cerf. Hein. Bon, on peut imaginer que si on fait naître des êtres comme ça, ces êtres vont être extrêmement souffrants. Donc on aura sacrifié le bien au vrai. Hein. Mais est-ce qu'on peut aussi sacrifier le beau au bien? Et là, c'est encore d'autres problématiques. Vous savez que c'est une discussion que j'ai eue avec Lévinas, hein, qui est un philosophe de juif, très 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 versé dans la Bible et dans le Talmud. Et alors, il pense que la révélation biblique, c'est la révélation du bien, en quelque sorte. Hein. Et il pense que Dieu, au fond, n'aime pas trop le beau, en quelque sorte. Alors, vous avez plein de gens qui essayent de plaire à Dieu en faisant des belles choses, par exemple des beaux temples ou des belles chansons dans le temple, hein, ça c'est jusqu'à Jean-Sébastien Bach y compris et au-delà. Hein. Et bien, Dieu n'en a que faire, hein. Parce que ce qu'il veut, c'est que les cœurs se convertissent, et il veut qu'on pratique la justice plutôt qu'on lui fasse des prières avec des belles cérémonies et des belles musiques. Bon. Et il y a même des paroles très très dures, hein, dans Isaïe, je crois, hein, où Dieu dit, c'est dans prophète antérieur, c'est Amos ou Osée, je ne sais pas. Dieu dit qu'il a horreur de la musique, en quelque sorte, hein. Il a absolument horreur de la musique, parce qu'il s'intéresse que à la rectitude morale du cœur. Il veut convertir les cœurs, il veut circoncire les cœurs. Hein. Il veut que les gens ne veulent que le bien, en quelque sorte. Et donc, non seulement le beau n'ajoute rien à cela, mais le beau peut nuire par rapport à cela, parce que du coup, on peut être très content de faire des belles cérémonies, de belles messes avec de splendides orchestres, des chœurs, des solistes, bon, et tout le monde oublie la morale. Hein. Alors voilà, donc c'est cette problématique qui se pose. Et d'ailleurs, j'ai pas fini dans ma petite combinatoire. Alors, on peut aussi vouloir, on peut par contre penser que le beau est essentiel pour le bien. Hein. Et justement, c'est la position de Benoît XVI dans un livre admirable qui s'appelle Der Geist der Liturgie, hein, l'esprit de la liturgie. Hein. Et le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore Benoît XVI à ce moment-là, explique que comme la messe doit anticiper le monde à venir, et comme le monde à venir sera magnifique, il faut que la messe soit magnifique. Donc le beau va concourir au bien, mais en position subordonnée quand même. Hein. Donc voilà le genre de problématique que j'ai voulu donc aborder, que j'ai voulu d'abord donc citer. Et du coup, j'en arrive à la thèse, mais je vous laisserai me poser éventuellement des questions, que cette la meilleure articulation possible entre le vrai, le beau et le bien n'est possible que dans une société libre. Et au contraire, dans une société de servitude, comme sont tous les socialismes, par définition. Hein, alors là aussi, les socialismes veulent supprimer la liberté pour le bien. Hein, mais en supprimant la liberté pour le bien, non seulement ils ne produisent pas le bien qu'ils promettent, mais ils suppriment aussi la possibilité de dire le vrai, avec la langue de bois des staliniens, ou de faire le bien, hein, puisque, encore une fois, comme l'a montré Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme, les sociétés totalitaires, les sociétés staliniennes, ou nazies d'ailleurs, veulent substituer aux règles de conduite morale entre les hommes les actions qui résultent de la décision du parti. Donc, par exemple, si vous êtes militant communiste et que vous avez milité pendant des années avec un très bon camarade, hein, mais sans que vous sachiez pourquoi, ce bon camarade déplaît aux autorités du parti. Donc, il vous envoie l'ordre de lui loger une balle dans la tête, tout simplement. Alors, la morale vous interdit de faire une chose pareille. On ne tue pas les gens comme ça. Et encore moins un ami qu'on a eu pendant des années. Hein. Mais le parti vous l'ordonne. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, c'est vous qui recevrez une balle dans la tête. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous comportez immoralement. Hein. Parce que le totalitarisme se moque de la morale et veut produire une société nouvelle qui aura justement une autre morale. Hein. Voilà. Alors, voilà pourquoi il vaut mieux vivre dans une démocratie libérale que dans un État totalitaire. Mais peut-être que vous avez d'autres questions.
Oui, justement, sur les États totalitaires, il y a un chapitre de votre ouvrage fort intéressant où vous montrez la laideur de ceux-ci qui se manifeste notamment dans la laideur architecturale. On pense tous à ces grandes barres d'immeubles collectifs en banlieue de Prague ou en banlieue de Moscou, les uniformes également de l'armée, quand on voit les uniformes de la République démocratique allemande, de sortes de verre de gris. Donc la laideur se manifeste dans l'architecture, dans les vêtements, c'est également la laideur du mensonge qui est d'obliger aussi les gens à mentir. Et cette laideur est aussi une manière d'asservissement. C'est-à-dire que la laideur est à la fois produite par la servitude et en même temps la laideur est un moyen de perpétuer la servitude en enfermant les gens et d'ailleurs aussi en supprimant tout ce qui est art, littérature, beauté, esthétique.
Oui, mais ceci a été magnifiquement montré par Castoriadis dans un texte que je cite. Castoriadis, philosophe français d'origine grecque, hein, et de gauche, disons, hein, enfin, socialiste, du moins au départ, hein, mais il a bien évolué. Et en tout cas, s'il a été socialiste jusqu'au bout de sa vie, il a été très anti-stalinien, hein, très anti-stalinien. Et donc, et puis, il s'est jamais intéressé spécialement à l'esthétique. Vous allez voir comment il retrouve ce problème sur son passage. Il veut montrer, alors il a écrit ce livre, il a écrit un livre qui s'appelle « Devant la guerre », et bon, j'ai oublié la date exacte, mais c'est genre 82-83. Je vais vous le dire, parce que j'ai les références sous les yeux. C'était avant la chute du mur de Berlin, mais peu d'années avant. Hein. Attendez, j'essaye de le retrouver. Non, mais je ne vais pas vous faire perdre de temps. Oui, c'est au début des années 80. Bon. Et le livre s'appelle « Devant la guerre » parce que c'est une analyse par Castoriadis des ambitions géopolitiques de l'Union soviétique, qui est encore debout et qui paraît très solide, bien qu'elle va s'effondrer 5 ou 6 ans plus tard. Hein. Mais elle paraît très solide et extrêmement redoutable et elle a des ambitions de prise de pouvoir mondiale. Hein. Alors, Castoriadis trouve nécessaire d'analyser ce régime, hein, parce que s'il faut le combattre, il faut bien l'avoir analysé. Et il en vient à s'intéresser à la question de savoir quel est le rapport de l'Union soviétique avec l'art et les artistes, donc avec le beau, d'une façon. Hein. Et il constate que les Soviétiques, enfin l'Union soviétique, a toujours pourchassé le beau, quelque sorte, persécuté les artistes et pourchassé le beau. Donc promu le lait, hein, d'où ces barres d'immeubles dont vous parlez, et ces persécutions contre les artistes. Alors, donc c'est un fait. Alors vous me direz que beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord en disant qu'il y a eu en Union soviétique bien des artistes, qu'on a d'ailleurs souvent découvert après, hein, mais ils ont fait leur œuvre malgré l'Union soviétique. On ne peut pas porter au crédit de l'Union soviétique des choses qui se sont faites en contradiction avec les règles que l'Union soviétique voulait imposer. Et alors, Cassarelli s'interroge sur cette haine du beau qu'on trouve chez les soviétiques, chez les soviétiques du système, en quelque sorte. Et il y a une magnifique analyse, parce que il y a un premier niveau de l'analyse qui est purement sociologique, à savoir que comme tout est collectivisé, hein, il n'y a plus d'artistes libres individuellement, tous les artistes sont encartés dans un syndicat. Bon, il y a le syndicat des compositeurs, le syndicat des écrivains, la maison des écrivains, la maison des peintres. Bon. Et alors, on a des commandes et on a du matériel pour pratiquer son art, on a un piano, hein, pour faire de la musique, que si on est membre de ces groupes, hein, et que si on est bien vu au sein de ces groupes. Et par conséquent, comme ça se passe toujours dans ces bureaucraties, ce sont les médiocres qui prennent le pouvoir, parce qu'évidemment, les vrais artistes pensent à leur œuvre, et seuls les médiocres pensent à faire les manœuvres de bureau qui vont leur permettre de prendre le pouvoir. Et puis une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils martyrisent évidemment les gens qui ont plus de talent qu'eux, en quelque sorte. Donc haine du génie de la part du médiocre. Hein, voilà une première cause. Mais cela ne suffit pas, parce que vous avez des génies qui arrivent quand même à se débrouiller, comme Shostakovich, par exemple, qui a été menacé, mais au fond jamais vraiment persécuté. Hein. Et il y a autre chose, c'est que le régime, ne impose des normes, hein, par exemple le réalisme socialiste, donc récuse tout l'art du début du XXe siècle, tout l'art abstrait par exemple, et veut qu'il n'y ait d'art que figuratif, et si possible représentant des ouvriers en train de travailler, des choses comme ça, d'où les fameuses statues, hein, qu'on a tous en tête, de ces ouvriers stakhanovistes qui bon, avec des gros muscles. Bon, ça c'est ce qui plaît comme canon esthétique, bon, mais c'est extrêmement laid. Bon, alors pourquoi, pousse plus loin l'analyse. Et il dit la chose suivante. En fait, du coup, il fait, alors qu'il n'avait jamais écrit de choses sur l'art en tant que tel, il fait une analyse de ce qu'est l'art. Et l'art, dit-il, crée un monde. Voilà. L'art est toujours création et création d'un monde. Parce que une œuvre d'art inaugure un nouveau monde, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'une œuvre d'art en général est plus belle qu'une autre, parce que pour comparer des œuvres entre elles, pour comparer des choses entre elles, il faut qu'il y ait un instrument de mesure commun. Par exemple, si vous avez une classe d'élèves, il y en a des petits, des moyens, des grands. Alors, on peut très bien comparer leur taille en les faisant passer tous devant une toise. On constatera que Pierre est le plus grand, que Paul est le second, etc. Vous pourrez les classer. Mais est-ce qu'on peut classer, je ne sais pas, la 9e symphonie de Beethoven par rapport à l'offrande musicale de Bach, ou par rapport au chant de la terre de Mahler, ou par rapport à Sea Pictures de d'Elgar? Bon. Et réponse non, ça n'a aucun sens. Hein. Vous pouvez peut-être classer des musiciens, par exemple, parce que Bach a écrit des centaines et des centaines de purs chefs-d'œuvre. Bon. Alors que le malheureux Duparc, qui est devenu aveugle à l'âge de 20 ans, du coup a été détruit. Bon, et il a écrit que quelques œuvres, mais qui précisément sont des chefs-d'œuvre. Alors il a écrit moins de chefs-d'œuvre que Bach. Mais est-ce que le chef-d'œuvre des mélodies de Duparc est plus beau ou moins beau que l'offrande musicale de Bach ou que le clavecin bien tempéré de Bach? Non. Les beautés ne sont pas commensurables. Et la raison structurelle qui explique qu'il en soit ainsi, c'est que chaque chef-d'œuvre de l'art crée un monde qui a ses propres critères et qui n'obéit pas aux critères de l'autre chef-d'œuvre. Donc si vous voulez juger le chant de la terre de Mahler d'après les critères de la 9e symphonie de Beethoven, ça vous avancera pas beaucoup parce que du coup quand vous écouterez Mahler, vous serez dans l'univers de Mahler et le jugement vous paraîtra absurde. Donc chaque œuvre d'art crée un monde et du coup, je poursuis le raisonnement de Castoriadis, puisqu'elle crée un nouveau monde qui a ses propres critères. Elle le crée ex nihilo en quelque sorte, hein, puisque il suffit pas d'appliquer un logiciel d'ordinateur pour créer des chefs-d'œuvre à la chaîne. Hein. Chaque chef-d'œuvre, on ne sait pas d'où il sort en quelque sorte. Hein. Et il y a une opération spirituelle qui se passe et qui est discontinue par rapport à ce qui précède. Et par conséquent, le monde nouveau créé par le vrai chef-d'œuvre nouveau prouve qu'un autre monde est possible que celui qui existait auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? On croyait qu'il y avait certains mondes. Bon, et puis apparaît le Sacre du Printemps. Bon, hop, un nouveau monde apparaît. Hein. Donc, chaque chef-d'œuvre de l'art frappe de contingence le monde existant. J'entends par là que le monde existant était analysé par le marxisme comme un monde nécessaire avec les lois de l'histoire et tout ce qui est devait être explicable par ces lois. Mais la 9e symphonie n'est pas explicable par ces lois, ni le chant de la terre de Mahler. Donc, l'existence d'un chef-d'œuvre de l'art réfute l'idéologie. La simple existence d'une œuvre belle réfute l'idéologie qui veut que tout soit sorti du même moule et obéisse aux mêmes lois. Un chef-d'œuvre de l'art, comme il jaillit on ne sait pas d'où, fait, alors il y a un très beau passage de Castoriadis, hein, fait apparaître le néant, hein, ça sort ex nihilo, ça sort de rien. Hein, et donc le chef-d'œuvre de l'art fait apparaître le néant sur lequel reposent toutes les choses du monde. Toutes les choses du monde ne sont pas nécessaires, elles ne sont pas fondées sur un grund, sur un socle unique, mais elles révèlent l'abgrund, l'abîme. Hein. Et c'est d'ailleurs l'explication du paradoxe selon lequel on a toujours dit que le chef-d'œuvre de l'art touchait à l'infini. L'art nous met en contact avec la transcendance, avec l'infini. Et puis vous avez des gens sérieux qui ont dit, mais pas du tout, puisque toutes les œuvres d'art sont des formes. Or, toute forme est finie. Hein. Il suffit pas de crier pour faire une œuvre d'art. Évidemment, pour faire une musique, il faut écrire plein de notes. Il faut mettre en place une forme. Hein. Et le créateur, c'est précisément un créateur de forme. Alors, ce qui a une forme n'est pas sans forme, n'est pas infini. Hein. Et par conséquent, il est faux que l'œuvre d'art nous mette en contact avec l'infini. Bon. Et l'analyse de Castoriadis résout le paradoxe. C'est qu'effectivement, l'œuvre d'art est une forme. Mais comme cette forme jaillit de rien, elle fait apparaître le rien qui, lui, est sans limite. Donc, elle fait apparaître l'absolu parce qu'elle fait apparaître que l'œuvre d'art est sortie de rien. Donc, elle prouve que le nouveau est possible. Et c'est cela que ne supporte pas l'idéologie totalitaire de l'Union soviétique. Donc, l'Union soviétique perçoit, si vous voulez, on pourrait dire, l'Union soviétique peut détester les artistes dissidents. Bon, par exemple, les gens qui écrivent des choses contre la révolution. Bon, mais elle pourrait au moins admettre l'artiste qui justement glorifie la révolution. Eh bien, elle ne l'admet pas si l'œuvre par laquelle l'artiste glorifie la révolution est réellement belle, donc crée un monde, parce que cette simple irruption de l'esprit, hein, dans le monde de la nécessité matérielle réfute la thèse du matérialisme historique qui fonde la légitimité même du régime de l'Union soviétique. Donc, le beau est pourchassé par un régime totalitaire et du coup, c'est QFD sur le fait qu'on ne peut pas être libre dans une société totalitaire, une société sans liberté. Hein, et donc, il vaut mieux vivre dans une démocratie libérale que sous le régime nazi ou sous le régime soviétique.
Bien, merci beaucoup, Philippe Nemo, d'avoir dressé en quelques mots ces rapports de l'esthétique et de la liberté, de l'art et de la liberté. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Esthétique de la liberté » qui est paru au PUF en 2014. Et je renvoie également nos auditeurs à votre manuel d'histoire des idées politiques paru au PUF en 2 tomes, « Histoire des idées politiques de l'Antiquité à nos jours » pour retrouver quelques-uns des éléments que vous avez pu évoquer, ainsi que évidemment beaucoup d'autres auteurs, et puis à une autre émission que nous avons réalisée sur Hayek et sur la vision du droit de Hayek. Et puis, je vous invite donc, pour nos éditeurs, à poursuivre cette réflexion sur la philosophie politique à travers les autres émissions que nous vous proposons dans cette série estivale que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit, ainsi que le numéro et le hors-série consacré à la géopolitique de la santé, eux aussi accessibles sur notre site revueconflit.com. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.